Bonjour et bienvenue à l'écoute de Nuit Américaine, l'émission de Vive le Cinéma sur Aligre FM 93.1, présentée par Bernard Payen, réalisée par Luca Penture, un écho Mastro Giovanni. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et j'ai le plaisir de recevoir la réalisatrice Paloma Sermondaï pour la sortie de son film Il pleut dans la maison le 3 avril. Bonjour Paloma.
Bonjour.
Alors, Il pleut dans la maison, c'est le portrait d'un frère et d'une sœur un été en Belgique. Sous un soleil caniculaire, lui a 15 ans, sa sœur 17, ils ont été abandonnés par leur mère. Ils se soutiennent dans ce monde âpre. Le film a été présenté il y a un an à Cannes, à la Semaine de la Critique, et il sort en salle. Alors, Paloma, on va faire connaissance avec vous, on va revenir un peu sur votre parcours et la manière dont vous travaillez à la lisière de la fiction et du documentaire. Le territoire est toujours très important dans vos films. J'avais envie de vous demander dans quel territoire, dans quel lieu vous avez grandi.
Alors, j'ai grandi en Wallonie, j'ai grandi dans la région de Namur, en bord de Meuse. Et ici, le film se déroule au bord du lac de l'Oder, qui est vraiment un territoire assez touristique. C'est un tourisme un peu particulier. C'est une région qui a eu un gros essor touristique dans les 20 dernières années parce qu'il y a des groupes hôteliers qui s'y sont installés. Donc ça a amené tout un nouveau peuple, c'est-à-dire que c'est plutôt des Hollandais, des Flamands qui viennent profiter des sports nautiques. Et à côté de ça, c'est une région qui est assez précaire. Donc on voit vraiment un choc des cultures entre ces gens, et je pense que c'est ça qui m'a attiré dans ce territoire.
Et c'est vrai que dans vos films précédents, que ce soit votre court-métrage Le vin d'étude, Mackenzie, et après dans Petit Samedi, vous filmez aussi des territoires proches, en tout cas la même région. C'est pas forcément le même endroit qu'on voit dans Il pleut dans la maison, mais en tout cas, à chaque fois, ça tourne autour de cette région-là, en fait.
Oui, je pense que j'ai été, dans mon enfance, très nourrie par ce territoire. Je l'ai beaucoup rejeté. Moi, j'avais vraiment envie d'ailleurs, j'avais envie de partir. Je pense que c'est ça aussi ce que j'essaye de raconter dans Il pleut dans la maison, c'est cette envie d'ailleurs. Donc, je suis passée par une période un peu de haine et de rejet de ce territoire. Et finalement, ça fait 10 ans que je l'ai quitté. J'ai été faire mes études à Bruxelles, j'ai connu la ville. Et maintenant, je pense que j'arrive à avoir un regard plutôt nostalgique et poétique. Et donc, j'essaye de mettre de la lumière sur ces souvenirs qui étaient peut-être un peu sombres. Et voilà, de faire un cinéma plutôt lumineux sur une histoire qui peut paraître sombre.
À l'époque, comment le cinéma vous a touché ? Est-ce que c'était par la télévision, par les films qui étaient diffusés à la télévision, autrement, ou il n'y avait pas forcément d'ailleurs de cinéma ?
Je ne viens pas forcément d'une famille de cinéphiles. Mon papa était dans la marine, ma mère était auxiliaire de soins dans des EHPAD, donc je ne viens pas du tout de ce monde-là. Mes frères regardaient quand même quelques films de temps en temps. Souvent, je regardais des films qui n'étaient pas du tout appropriés à mon âge. J'ai grandi, je me souviens notamment de Orange Mécanique.
Ah oui.
Voilà, ma mère avait supplié mes frères de ne pas me le montrer et je crois que je l'ai vu un peu trop jeune. Je n'ai pas compris toutes les nuances de ce film. Je ne sais pas, je devais avoir 7-8 ans. Donc voilà, puis j'ai grandi avec la télé, on regardait beaucoup Striptease avec mes frères. Et puis la télé-réalité est rentrée dans ma vie, plutôt le cinéma américain. J'allais à la ville de temps en temps voir des gros films et puis j'ai commencé à prendre le bus et pouvoir aller au cinéma toute seule. Et je suis rentrée là-dedans plutôt par le théâtre, en fait, parce que j'ai fait des études avec une option théâtre. Donc, je faisais 8 à 10 heures de théâtre par semaine. Donc, c'est la première porte vers la culture, disons que c'est plutôt par là. Et puis ensuite, je suis rentrée dans le cinéma, mais par une école technique, pas par la réalisation. Donc, j'ai fait une école d'image, donc plutôt caméra, lumière. Donc, j'ai une démarche très artisanale autour du cinéma.
Qu'est-ce qui vous attirait justement dans le fait d'étudier plutôt l'image ?
J'avais essayé des concours pour des écoles de théâtre, ça n'avait pas marché, donc j'avais pas du tout envie de repasser par des concours. Et en fait, les écoles de réalisation, il faut passer par des concours en Belgique. Donc oui, je pense que j'aimais la photo, j'aimais l'image, j'avais envie de... C'était un milieu que je connaissais pas du tout, j'avais envie de connaître les métiers. Donc j'avais vraiment une approche plutôt ouvrière presque, j'avais vraiment envie d'être une bonne technicienne. Et donc je me suis vraiment passionnée par la lumière, par la caméra. Et en fait, dans cette école, il y a un atelier de cinéma qui m'a permis de faire mes premiers pas dans le documentaire. Donc j'ai pu réaliser quand même en étant à l'école. Et ça m'a ouvert un monde, ça m'a donné la parole, ça m'a ouvert un monde.
Et c'était une manière peut-être déjà d'envisager le cinéma comme un artisanat ?
Oui, je pense que c'est pour ça que je me suis plutôt dirigée dans un premier temps vers le documentaire, parce que j'avais la sensation que je pouvais vraiment travailler avec la caméra, prendre le temps, et que ça me permettait enfin d'avoir un peu de recul sur cette enfance, sur là où j'ai grandi, sur ce territoire wallon, qui au cinéma, je trouve, était souvent montré de manière assez sombre dans un cinéma social qui ne me ressemblait pas. Et donc petit à petit, j'ai créé ma méthode de travail et mon regard sur cette région, et une envie en effet de mélanger les genres, parce que c'est vrai que dans mon documentaire, je mets de la fiction, dans ma fiction, je mets du documentaire. J'aime bien, pour moi, un film est un film, et j'ai pas tellement envie de mettre les choses dans des tiroirs. Donc petit à petit, j'ai développé cet univers.
Alors, en fin d'études, vous réalisez ce film Mackenzie. Mackenzie, on le retrouve après dans le long métrage qui va sortir, Il pleut dans la maison. Donc, comment s'est faite cette rencontre, en fait ?
Alors, en fait, Mackenzie, au départ, c'était vraiment un film plutôt choral sur le village. Donc, il y avait plein de personnages. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à filmer tout le monde. Et il y avait vraiment toutes sortes de personnages, une épicière, une personne handicapée, plein de monde dans le village. Et en fait, je ramenais des images de beaucoup de Mackenzie, parce que c'était le gamin qui était le plus accessible. Lui, il était super content de se faire filmer, donc c'était très facile de faire des petits rendez-vous de repérage avec lui. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'à travers Mackenzie, je pouvais mettre le doigt justement sur ces questions de l'enfance, ce que c'est de grandir dans un petit village au bord de Meuse, comment on gère cet ennui, comment on gère justement ce manque d'accès à la culture, ce plafond de verre qui est difficile à briser. Et donc, le film s'est resserré petit à petit sur lui. Et en fait, ça s'est beaucoup passé par le jeu. Je pense qu'elle est née de là aussi, cette méthode d'arriver à faire un cinéma profondément ancré dans le réel, mais avec une forme de mise en scène. Prendre un pas de côté et s'amuser, en fait. Et c'est cet enfant qui m'a poussé à développer cette méthode-là, parce que pour lui, typiquement, lui, il ne savait pas ce que c'était la différence entre une fiction et un documentaire. Et donc, il était en demande, quelque part, de mise en scène, qu'on lui dise ce qu'on attendait de lui et ce qu'on allait montrer. Et donc, chaque jour était une nouvelle rencontre, un nouveau jeu, une nouvelle mise en scène.
Comment il a compris ce que c'était que mettre en scène ? C'est vraiment au fur et à mesure que ça s'est passé de comprendre ce qu'on attend de lui aussi ? Parce que, quelque part, il y a toujours de la fiction dans le documentaire.
Enfin, oui, bien sûr. Je crois que c'était surtout dans le mouvement, en fait. Il avait envie qu'on le filme dans des bagarres, dans des vélos. Enfin, pour lui, c'était plutôt des courses-poursuites. On mettait une caméra dans un coffre d'une voiture, on le filmait sur son BMX et il était fasciné. Il avait vraiment l'impression d'être un héros, quoi. Et donc, ça passait beaucoup par le jeu. Et puis, déjà dans Mackenzie, il y avait la présence de sa sœur Purdé, qui est aussi dans Il pleut dans la maison. Et à ce moment-là, on a vraiment essayé de développer du dialogue, pour le coup plutôt profondément documentaire, dans des prises assez directes. Et c'est là, en fait, que j'ai mis le doigt sur cette complicité qu'il y a entre eux. Et je pense que c'est ça, finalement, qui a un peu inspiré Il pleut dans la maison. C'est ce magnifique rapport qu'ils ont.
Voilà, c'est vraiment la naissance de cet amour fraternel entre eux qu'on retrouve dans le long métrage et qui est déjà là dans le sens où ils se soutiennent beaucoup dès le court métrage, en fait. Il y a notamment dans cette longue scène, il y a une longue scène dialoguée entre eux dans le court métrage où on ressent ça déjà.
Oui, tout à fait.
Elle était venue comment, cette scène ? Elle était venue naturellement ou elle était... Quelles ont été les circonstances
pour... Ce que je faisais souvent avec eux, c'est que je les séparais et je leur donnais un peu des indications. J'essayais de pousser un peu la conversation. Donc, par exemple, Purdé, je lui disais, tiens, tu vas lui parler de l'internat, on va voir comment il réagit. Des petites choses comme ça, je les prenais à part et puis je les réunissais et je voyais ce qui se passait, quoi. J'essayais de provoquer un peu les conversations, mais c'est vrai que... Je suis assez fascinée et je pense que c'est quelque chose qui guide beaucoup mon cinéma par ces duos d'amour inconditionnels qui ne sont pas forcément des duos amoureux mais plutôt des duos de famille et la loyauté et voilà, l'interdépendance finalement qui se crée dans ces relations. Et donc c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Ouais.
Et il y a aussi ce qui est frappant dès le départ, des scènes composées. Je pense à cette scène d'abribus qu'on voit vers la fin du film où la caméra est fixe. Enfin, il n'y a pas l'idée de faire forcément de la caméra portée ou de choses comme ça. Enfin, c'est vraiment l'idée de composer le cadre.
Oui, dans Mackenzie, dans Petit Samedi, il y avait encore un côté très film tableau. Je pense que c'est parce que... Bon, déjà, je pense que ça vient peut-être un petit peu du théâtre et de mon amour pour la photo. Il y avait une question de composition aussi. Et aussi, dans la construction du film, en fait, c'est vraiment des scénettes. Le film, il est un peu... On pourrait le monter de mille façons. Donc, je joue beaucoup de l'ellipse. Et donc, forcément, le film est un peu cubique, comme ça. Et c'est vrai que, oui, j'aime beaucoup composer comme ça. Là où il pleut dans la maison, pour le coup, il y a une envie d'ailleurs. Et donc la caméra, elle s'est naturellement posée sur l'épaule. Là où dans les films en bord de Meuse, c'était plutôt statique parce qu'on jouait plutôt justement l'enfermement de ce microcosme, de ce village où le train passe, le bateau passe et nous, on n'arrive pas à partir. Donc il y avait un jeu là-dessus, ouais.
Oui, la Meuse est très importante aussi dans le film dès le départ. Et puis donc arrive un long métrage documentaire qui est Petit Samedi. Alors ce qu'on peut faire, c'est écouter la bande-annonce du film parce qu'il est sorti en France, il est sorti au mois de juin dernier. Il est sorti avant Il pleut dans la maison. Il a été fait avant aussi, donc c'est logique. on va écouter et puis on en parle tout de suite après.
We'll be right back. le risque?
Ouf, le risque de prendre soin de moi. Le risque de prendre soin de moi, ça voudrait dire d'arrêter de consommer, de prendre un autre chemin, de prendre ma vie en main et d'aller de l'avant. Et ça, je pense que je sais pas pourquoi, j'aimerais bien pouvoir enlever le frein, je sais pas où il est, et pouvoir le faire, mais j'y arrive pas.
Tu le dis à certaines personnes?
Oui.
Non.
Si. Il y a quelqu'un qui m'a dit...
C'est pour moi?
Si. Il me parlait de sa famille, etc. Et je dis, moi, j'ai un enfant qui a un problème, et j'expliquais ce que c'était.
Si je te fais ton jardin, tu me donnerais 20 euros.
Putain, ça va pas. Pourquoi il va pas?
Aïe, 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 l'existence.
D'écrire une chanson, peut-être que c'est terminé, mais ça c'est une chanson qui s'appelle My Secret Life. It goes like this. I smile when I'm angry. I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong and I know what is right. I'm a master of truth in my secret life.
Elle a quel âge, votre fille, Solal?
Attendez, parce que j'ai du mal à compter l'âge de mes enfants. Donc... Ah oui, 43 ans et demi. ça vous fait rire?
Non, mais...
Riez-moi, là.
Non, mais à 43 ans, c'est plus un gamin, vous savez.
Oui, c'est vraiment... Vous... C'est des pourritures.
Non, non, madame, c'est pas comme ça.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Toujours avec vous, Paloma Sermondaille, c'est votre premier film, premier long métrage documentaire qui est sorti en juin en France. C'est l'histoire de Damien, qu'on appelait petit Samedi, enfin Damien Samedi, qui est un homme de 43 ans, qui est tombé dans la drogue et qui aide autant sa mère que sa mère l'aide. Enfin, il y a vraiment cette idée-là de correspondance, d'échange entre un homme et sa mère. Alors c'est votre frère, c'est votre maman aussi qu'on a entendu. Ce film-là, il est né comment aussi?
Il est né d'une profonde envie. En fait, je suis sortie de l'école, j'ai travaillé pendant quelques mois, même quasi une année, sur des gros tournages de fiction, comme assistante cam. Et en fait, ça me titillait, il y avait une envie documentaire qui revenait, une envie d'écrire. Et je pense que mon frère allait pas très bien à l'époque et je me suis rendu compte qu'on avait essayé plein de choses pour l'aider. Et moi, j'avais l'impression d'avoir une nouvelle corde à mon arc qui était cet outil de cinéma que j'avais appris. Et en même temps, une envie de faire un film. Et je pense que j'ai réuni les deux choses et je me suis dit, je vais lui proposer, on va voir ce que ça va donner. Il m'a dit oui de manière assez naïve en se disant qu'il allait pouvoir aider éventuellement des jeunes et d'autres gens dans la souffrance. Mais je pense qu'il se rendait pas compte de mon envie... de la démarche plutôt de documentaire d'auteur, en fait. J'avais envie de faire un vrai travail avec eux et pas simplement un reportage. Je pense qu'ils confondaient peut-être un petit peu les choses. Et voilà, pareil, en fait, je change pas tellement de méthode entre le documentaire et la fiction. J'ai vraiment besoin de me plonger dans le sujet. Donc j'ai pris un an pour les filmer. D'abord Damien, et puis ma mère s'est rajoutée dans l'équation parce que je me suis rendu compte que quand ils étaient à deux, il y avait quelque chose qui se dégageait. Il y avait en effet beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup de... Je crois que la complexité de cette relation, c'est ça qui m'intéressait. C'était... d'arriver justement à donner un peu une autre image, à briser un tabou autour de la toxicomanie. Mmh. On se fait souvent des idées reçues sur ce qu'est un toxicomane. On a plutôt cette impression qu'il n'y a que des toxicomanes en ville. Et en fait, non, dans le milieu rural, il y en a beaucoup aussi, malheureusement. Et donc oui, c'est né de ça, d'une envie, d'un besoin surtout de mettre ça derrière moi, je pense. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je fasse ce film-là avant de passer à autre chose dans ma vie et dans ma carrière.
Il y a aussi dans ce film l'idée que le cinéma est un outil de dialogue entre vous et vos proches, en fait. C'est un peu le cas aussi, on y reviendra dans Il pleut dans la maison, mais mm-hmm. Le fait d'être en plus, j'imagine, derrière la caméra, permet aussi quelque chose de supplémentaire.
Oui, tout à fait. Mais en fait, dans Petit Samedi, moi je me suis rendu compte, j'avais vraiment la sensation, et je vois après la sortie du film, je me rends compte que c'était vrai. Je crois que dans beaucoup de traumatismes, en fait, le fait d'en parler et de dévoiler la chose permet vraiment de guérir après. Et je sentais que chez Damien, il y avait énormément de honte. Et donc ça a été un des grands moteurs du film aussi, parce que j'avais l'impression qu'il fallait briser ce tabou. Et c'est un peu bête, mais pour Damien, c'était plus compliqué d'imaginer que la voisine allait voir le film que de se dire que le film allait être montré en salle, en fait. Il y avait vraiment... c'était pas tellement le public qui faisait peur, c'était vraiment le... Encore une fois, les regards de ce petit village, et ça a permis à mon frère d'être libéré d'un poids et de pouvoir ensuite travailler sur sa guérison. Donc c'est vrai que c'est pas juste un geste de cinéma. Après, moi, j'ai eu un grand plaisir à faire ce film, Y a eu un vrai travail d'écriture, il y a eu un vrai travail d'image, mais c'est vrai qu'il y a une autre portée, et c'est ça que j'aime aussi, c'est ouvrir un dialogue.
Il y a aussi l'idée de trouver une forme sur Petit Samedi, parce que par rapport à Mackenzie, c'était différent. Petit Samedi est un film beaucoup plus dialogué, en tout cas il y a beaucoup plus d'échanges qui passent par le verbe, par la parole, alors que Mackenzie était un film plus silencieux peut-être, même s'il y avait cette scène dont je parlais tout à l'heure d'échange entre le frère et la sœur. Donc ça c'est venu aussi naturellement, cette idée de trouver cette forme-là, d'être beaucoup en intérieur aussi... de trouver donc une forme appropriée, une forme documentaire pour ce film.
Ouais, j'avais presque envie de faire un huis clos de la parole, en fait. Mmh. Il y a un dialogue permanent. Et en fait, à travers ces différents dialogues, Damien et ma mère nous racontent leur passé, leur présent, et envisagent un futur. Il y a des dialogues avec la thérapeute, il y a des dialogues avec ma mère, et on en apprend un petit peu. C'est une façon pour moi de raconter l'histoire, de créer une narration, sans passer par l'interview, mais vraiment dans ce dialogue. C'est ça que j'ai aimé faire, et ça a pris énormément de temps parce que je les ai filmés pendant un an. Moi, je les filmais avec mon téléphone, avec une petite caméra, donc j'ai des heures et des heures de dialogue, et c'est ça qui m'a permis, au moment du tournage, le film s'est tourné pendant une vingtaine de jours, de vraiment mettre le doigt et de, encore une fois, reprovoquer ces conversations. Pareil, je les prenais à part, je disais, tiens, on va essayer que maman parle de ça, et donc je prenais Damien comme complice, et j'essayais qu'il soit mon partenaire pour essayer de faire dialoguer ma mère. Et pareil, je prenais ma mère à part et je disais, tiens, essaye que Damien nous parle de ça. Et donc, ça crée tout un long dialogue entre eux.
Il y a une autre prise en charge de parole, c'est la prise en charge par un thérapeute aussi, qui ressemble un peu à l'interview, pour le coup.
Oui, tout à fait. Ça a été compliqué parce que Damien, il avait un grand rejet du milieu médical. Donc, il a vraiment fallu trouver une thérapeute qui soit... c'est une thérapeute qui reçoit dans une yourte hyper nature, hyper... Et Damien l'a choisi. Je lui en ai présenté plusieurs et il a choisi de travailler avec elle. Et ils ont fait un premier rendez-vous à deux et puis on est arrivé. Et là, pour le coup, moi, j'ai pris cette décision de ne pas du tout intervenir. Donc je l'ai vraiment laissé faire. Et c'est vrai que c'est une façon pour moi de passer par l'interview, mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je ne suis pas du tout professionnelle de la santé, je ne suis pas non plus sociologue, je n'ai pas fait une recherche sur l'addiction, donc je voulais vraiment que ça soit un dialogue que je ne puisse pas maîtriser, en dehors du montage, bien sûr, ou au montage, évidemment, on a décidé plutôt dans la thérapie, c'est ce qui nous permet aussi de retracer le passé de Damien, comment il en est arrivé là, et aussi, quelque part, les cicatrices de l'enfance, c'est un peu... les débuts de son introspection, quoi.
Et je voudrais revenir sur deux extraits qu'on a entendus dans la bande-annonce. La fameuse scène, en fait, où la mère part à la recherche de son fils. Je voudrais savoir comment est née cette scène-là, qui est une scène, pour le coup, presque de fiction.
Oui, absolument. Là, c'est une des grandes libertés fictionnelles du film. En fait, moi, j'avais... c'est un peu particulier parce que avant que je parte à Bruxelles, on était un peu un trio. Et puis, je suis partie à Bruxelles et j'ai vraiment ressenti qu'il nourrissait un duo. J'étais plus là. Et donc, quand j'ai décidé de faire le film, j'ai vraiment redécouvert leur relation. Et en même temps, dans le film, j'avais quand même envie d'évoquer des souvenirs de mon enfance et de souvenirs que j'avais de leur relation. Et c'est vrai que moi, quand j'étais gamine, je me souviens que ma mère l'appelait énormément, partait toujours en recherche. Et donc, j'ai eu envie de grossir un peu le trait et de me dire, en fait, on va vraiment la faire partir en recherche et la faire fouiller le village. Et voilà, c'est un moment dans le film où, quelque part, je pense que le spectateur nourrit aussi un petit peu une inquiétude parce que c'est un peu un point de basculement pour Damien où on sent que son... Il y a un peu les fantômes du passé qui commencent à ressurgir et il est un peu perdu. Et donc, j'avais envie de ça. Et c'est ce qui permet aussi de montrer, quelque part, toute la fantaisie du personnage de ma mère qui parle toute seule dans sa cuisine à sa radio et qui va se disputer avec des jeunes villages qui se moquent d'elle parce qu'elle cherche son petit garçon de 43 ans. C'était une façon de montrer le côté un peu caustique de la relation aussi, quoi.
Et puis, on entend Leonard Cohen, Secret Life, qui, évidemment, les paroles de la chanson nourrissent un petit peu aussi ce qu'on ressent du film. J'imagine que c'est pour ça que vous avez choisi à ce moment-là de le mettre.
Oui, tout à fait. Ma mère est absolument amoureuse de Leonard Cohen. Elle a un portrait de Leonard Cohen dans sa cuisine. C'est l'homme de ses rêves. Et moi, j'aime bien dans les films, je l'ai fait aussi dans Il pleut dans la maison, essayer de me nourrir de l'univers des gens que je filme. Honnêtement, c'était pour lui faire plaisir, en fait, je pense. Et j'ai fouillé dans pas mal d'archives de Leonard Cohen et j'ai trouvé, en effet, cette interview où il raconte... comment il a écrit Secret Life, et ça me faisait énormément penser à Damien, parce que c'est vrai que c'est vraiment... La toxicomanie, c'est une vie de secret. C'est une vie en huis clos, c'est une vie de honte. Et le film, il essaye de briser ça, donc je trouvais que ça tombait à pic.
Et on en arrive donc à Il pleut dans la maison, ce film qui sort le 3 avril, qui est un film de fiction. Comment s'est faite l'idée et l'envie, en tout cas, de passer à la fiction, de vraiment de reprendre Purdy et Mackenzie, qu'on voyait donc dans ce court-métrage, Mackenzie, et de leur donner... de construire un film autour d'eux et de construire une fiction autour d'eux. Je crois que vous aviez une envie de fiction à la base, mais forcément sans penser à eux au départ, je crois que c'est
ouais,
ça.
Oui, c'est ça. Oui, j'ai commencé à écrire, je savais que j'avais envie de parler d'une histoire de famille, je savais que j'avais envie de mettre un petit peu de mon histoire, mais sans faire un film autobiographique, pas du tout, mais en tout cas de mettre un peu de l'univers et de l'atmosphère de mon adolescence. Le lac de l'Odor où on a tourné, c'est un lac où j'allais nager quand j'étais ado avec des amis et donc oui, à la base, il y avait cette envie de créer un personnage maison, une maison qui s'effondre, et en même temps, enfin une maison cocon qui s'effondre, et puis une histoire de fratrie, ça je savais que c'était l'équation de base de ce récit. J'ai commencé à écrire en pensant que je passerais par un casting sauvage, parce que j'avais plus tellement de contact avec Mackenzie et Purdy, je savais pas du tout s'ils seraient partants. Et c'est mon producteur en fait qui m'a dit « Mais t'es quand même en train d'écrire des personnages qui ressemblent vachement à Mackenzie et Purdy, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe là ?» Et donc je les ai recontactés, et c'est vrai que quand ils sont rentrés dans cette aventure, ils ont quand même beaucoup nourri le récit. Moi j'aime bien dire que c'est une histoire fictionnelle avec des personnages documentaires, parce que je me suis beaucoup inspirée d'eux. J'ai pris une année où toutes les 2-3 semaines j'allais les filmer, on allait au lac ensemble, je leur donnais des pistes de dialogue et on faisait des improvisations, donc j'ai vraiment essayé de garder leur parler, leur phraser, et surtout, je me suis beaucoup nourrie de leur génération. J'ai trouvé qu'on avait plein de points communs. En fait, une génération en Wallonie, ça n'a pas tellement changé. Il y a toujours les mêmes problèmes, les mêmes emmerdes, les mêmes l'ennui, l'envie de faire des bêtises pour faire passer le temps, l'envie de partir. Enfin, on est toujours porté par les mêmes choses. Et je pense que peu importe où on a grandi, on a connu un peu ces étés de l'adolescence où la vie nous oblige à grandir plus vite que prévu. Et donc, oui, voilà, à ce moment-là, ils ont beaucoup nourri le film, mais c'est vrai que moi, j'avais envie de faire un film encore très ancré dans cet univers de ma jeunesse, mais en même temps de me libérer du documentaire, parce que c'est vrai qu'après avoir fait un film sur ma mère et mon frère, il y a quand même, je ne veux pas dire qu'il y a des contraintes, mais on porte quand même, il y a vraiment des questions d'éthique, surtout quand on utilise la parole de sa propre famille, il y a quand même quelque chose de très... d'un peu lourd, on ne peut pas à la fin du tournage claquer la porte et dire on se revoit à l'avant-première, forcément il faut ensuite aller manger le rôti le dimanche, donc il y avait beaucoup de poids et donc ouais, j'avais envie de faire ça, et puis surtout comme j'avais envie de pouvoir partager des choses avec Mackenzie et Purdy, j'avais envie quelque part qu'eux aussi soient protégés par cette fiction, qu'ils puissent mettre d'eux-mêmes, mais qu'on soit tous d'accord qu'il y avait une narration dans laquelle voilà, on ne sait plus trop qui a inspiré quoi, et tout est mélangé, et c'est très bien comme ça.
Il y a un rapport de confiance, évidemment, à construire, enfin, qui était déjà là, mais qui est à développer. Et puis, il y a cette responsabilité aussi de filmer des jeunes qui vont être montrés dans un film, qui va en plus, ça vous le saviez pas avant, mais qui a été montré la semaine de la critique à Cannes, et qui a été montré après dans le monde entier, enfin, dans des festivals, etc. Donc, il y a forcément, ça pose question aussi, j'imagine.
Oui, ça pose question.
Les cinéastes,
ouais. Ça pose question. Ça démarre un peu comme si on les inscrivait à un cours de théâtre. On débarque toutes les 2-3 semaines, on leur demande de faire des trucs. Eux, ils viennent surtout parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des cigarettes gratuites, un Red Bull et puis un sandwich à midi. Et ils sont contents de faire une petite activité. Et puis petit à petit, ils se rendent compte que ah, en fait, les choses commencent à se construire. Il y a une équipe, on va faire des essayages costumes, on va faire une petite répétition. Les choses commencent à devenir de plus en plus sérieuses. Il y a un contrat qui est signé, donc les choses deviennent... se resserre un peu autour d'eux, et moi j'ai vraiment essayé que ça reste un plaisir pour eux et qu'ils n'aient jamais la sensation de devoir aller au boulot, quoi. J'ai vraiment c'est un film qui s'est fait en production légère, donc c'est un petit budget, c'est une forme de financement en Belgique qui est très maigre, et donc tout devait être bien pensé. Donc c'était une petite équipe, peu de décors, des acteurs majoritairement non professionnels, donc il y a quand même un esprit de famille, et je pense que c'est ça aussi qui se ressent dans le film. C'est un film qui s'est fait assez rapidement, c'est un geste, quoi. Et donc, on a la sensation d'être parti en vacances avec eux, avec l'équipe. On était une équipe de 7, donc c'était vraiment un cocon. Et moi, j'ai essayé de voir ce petit budget comme une chance de, justement d'une certaine liberté artistique. On était vraiment dans un module presque documentaire, en effet, parce qu'on était très modulable. On pouvait s'adapter au jour le jour, on pouvait improviser des choses, on pouvait changer d'avis le matin et dire tiens, on fera ça un peu plus tard, on va plutôt profiter du spectacle de jet ski, du feu d'artifice, enfin voilà, j'invente, mais on était vraiment spontanés, quoi.
Et la fameuse maison, c'est une maison que vous avez trouvée, que vous avez aménagée pour le tournage ou
Ouais, tout à fait. Moi, j'avais beaucoup d'images en tête. On a, avec le chef opérateur du film, Frédéric Noiram, on a beaucoup réfléchi à cette image, à l'envie justement de faire un film. Peut-être social, mais en tout cas très solaire, et donc vraiment un film caniculaire. Donc j'avais envie d'une maison très lumineuse et en même temps pas beaucoup de budget, donc pas forcément de grande intervention de décoration. Donc on a trouvé une maison qui était vide, qui était à moitié abandonnée, dans laquelle il n'y avait ni l'eau ni l'électricité, donc on a dû redébarquer avec tout ça. Et puis j'avais envie que dans cette maison, on sente justement que, c'était une maison d'héritage. Il le dit, c'est la maison de la grand-mère. Ouais. Et donc il y a ce mélange de vieux meubles et de meubles de récup. On sent qu'il y a voilà, des meubles récup l'an 2000 et puis les vieux meubles de la grand-mère en chêne. Et donc c'était vraiment un mélange comme ça. Et puis surtout, j'avais envie de faire planer cette approche de l'hiver. Alors, on sent que... Il y a des problèmes avec la chaudière, que l'hiver va arriver. Et qu'en même temps, ce qui m'intéressait aussi, c'est de se dire, en fait, une maison insalubre, c'est pas agréable non plus l'été, parce qu'il y fait très chaud, c'est pas bien isolé. Et voilà, donc il y a vraiment des grandes entrées de soleil. On sent qu'ils essayent de se protéger à coups de volet. Et donc voilà, c'est vraiment un peu un cocon dans lequel le soleil essaye malgré tout de rentrer. On a eu de la chance, on a tourné dans un été qui était très lumineux. Donc c'est pas les étés qu'on a l'habitude de voir en Belgique. Mais donc voilà, les étoiles se sont assez bien alignées sur ce décor et sur le climat.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le film, on ressent beaucoup la sensorialité. Enfin, il y a quelque chose que vous avez vraiment développé à ce niveau-là, qui passe beaucoup par le son. Et les textures, les matières, et le fait de ressentir beaucoup la chaleur. Et en même temps, paradoxalement, effectivement, comme vous le disiez, l'approche de l'hiver, c'est très intéressant parce que voilà, il y a presque quelque chose de, effectivement, on est quelque chose de menaçant dans cette chaleur-là,
ouais.
Qui devrait pas forcément l'être, mais le fait que la pluie commence à tomber parce qu'il y a ce problème de fenêtre, et ça dès le début, enfin, on le voit vraiment dès les premières scènes, est lié aussi à oui, tout le travail du son, notamment la présence du ventilateur, par exemple, qu'on entend de manière très marquée. Et je voulais un peu vous entendre sur cet aspect-là, de sensorialité, de travail sur le son, qui fait du film un film très... oui, là, pour le coup, c'est la fiction et le romanesque qui est présent à travers le son.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé à écrire le film alors que la Belgique était touchée par de grandes inondations. Et donc, il y avait aussi ce rapport à l'eau qui m'intéressait, ces maisons percluses. Et c'est vrai qu'au son, on a vraiment été attentif justement à créer cette maison où il n'y a pas d'intimité. Le sol craque, les murs sont fins. On sent que quand on est dans la chambre de l'un ou de l'autre, on entend aussi cette présence permanente du ventilateur parce qu'on sent qu'ils essaient d'avoir un peu d'air dans cette maison qui respire mal. Et puis, oui, le travail vraiment sur cet été caniculaire. Moi, j'ai redécouvert le lac de l'odeur qui, je trouve, était hyper cinégénique. Les pelouses étaient entièrement brûlées. Il y avait vraiment cette sensation de canicule qui était très oppressante. Et donc, c'est tout naturellement que la maison, elle s'est travaillée comme ça. Puis c'est vrai que c'était une maison abandonnée, mais dans laquelle vivait avant un homme qui s'était complètement laissé aller et qui fumait énormément. C'est vrai que dans le film, ça fume beaucoup aussi. Et donc, voilà, par chance, bon, malheureusement pour lui, mais par chance pour nous, les murs étaient vraiment teintés de nicotine. Et donc, ça crée aussi cet aspect un peu... dégoulinant de nicotine dans la maison. Et voilà. Et puis on avait aussi envie de traiter cet environnement. Voilà, il y a sans cesse du bruit en fait dans ce quartier. On est à la campagne, mais il y a sans cesse les scouts, les mobilettes qui passent, ce lampadaire aussi qui rentre sans cesse dans la chambre et qui crée une atmosphère assez presque de flamme. On est vraiment dans une lumière très orangée. Et donc, oui, c'est un peu tout ça.
Notamment la nuit. C'est vrai que quand on les voit endormis ensemble dans le lit, ils ont cette lumière orangée. Ça revient tout le temps.
C'est un des derniers quartiers où il y a encore des éclairages au sodium, parce que là, on passe au LED partout, j'imagine qu'en France aussi, donc les lumières deviennent blanches. Ouais. Et c'est vrai que ce sodium, c'est vraiment une des lumières, pour le coup, de ma jeunesse. Moi, j'ai vraiment grandi sous le sodium. J'ai l'impression que tous ces souvenirs de nuit, d'été, on était toujours dans le sodium, quoi.
Alors, on va marquer une pause musicale. J'ai choisi... En fait, une chanson qu'on entend. On va revenir là-dessus sur les chansons d'ailleurs dans vos films, parce que c'est toujours très intéressant le choix des chansons. Ça, c'est une chanson qu'on entend dans Mackenzie, qu'on va écouter. On pourrait y revenir après. Et puis on écoutera dans la foulée la bande-annonce de Il pleut dans la maison. Voilà.
Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón, repica su mamá mía mala mujer. Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón, repica su mamá mía mala mujer. Que dicen todos cuando me ven pasar.
Chica, ¿dónde vas?
Me voy pa' bailar
el bayón. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Que dicen todos cuando me ven pasar.
Chico, ¿dónde vas?
Me voy pa' bailar
el bayón. Digi ding, digi ding, digi ding. Digi ding, digi ding, digi ding.
Viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón, repica su bamba, mi ama la mujer.
Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón, repica su bamba, mi ama la mujer.
Tengo ganas de bailar el nuevo compás, que dicen todos cuando me ven pasar.
Chica, ¿dónde vas?
Me voy pa' bailar
el bayón. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, que dicen todos cuando me ven pasar.
Hey chico,
ajá,
¿dónde vas?
Me voy pa' bailar
el bayón. Digi ding, digi ding, digi ding. Digi ding, digi ding, digi ding.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je dois avoir 18 ans, je dors avec mon frère. Déjà, il ronfle et en plus de ça, il pue des pieds.
Mais dors en bas, hein.
Ma mère n'est pas très présente et l'état de la maison, c'est compliqué. Tu penses que c'est possible d'avoir un contrat à l'année?
Un contrat étudiant?
Non, justement, j'aimerais bien aller vivre ailleurs avec mon petit frère.
Il a quel âge?
15 ans.
Avant, ah bon, attends, j'ai un caillou.
Je m'en fous. Salut. Vraiment dégueu de toker.
T'as déjà fait des choses avec une meuf, toi?
Tu me poses ça, toi?
Je sais pas, mec.
Non! Allez, venez!
C'est quoi?
Mac, viens me chercher!
Ah, c'est bon?
Parfois, je vois vous plaindre et tout, genre de mère, parce qu'elle est jamais là et tout. Bon, ça doit être comme bien, non?
Ça dépend pourquoi.
Tu veux finir femme de ménage toute ta vie? C'est pas comme ça que j'imagine ma copine, alors que moi, je serai à l'école l'année prochaine.
T'espères rencontrer une fille là-bas, une petite bourge.
Ça va, père d'elle.
T'es un fils à papa, tu travaillais pas pour t'acheter un truc.
T'as 16 ans, on est là pour profiter de la vie, pas pour travailler dès le plus jeune âge. On n'est plus à la mine.
Maman?
Tu veux pas partir?
Non.
C'est la maison de mamie, moi je veux la garder.
Vous écoutez Aligre FM 93.1, Nuit américaine. Nous sommes en compagnie de Paloma Sarmondaï, la réalisatrice de Il pleut dans la maison, dont on vient d'écouter la bande-annonce. On a écouté juste avant Caterina Valente. Ça, c'est une chanson qu'on entendait dans votre court-métrage Mackenzie. Il y a toujours, dans le choix des musiques, dans vos films, des petites échappées. C'était le cas de cette chanson dans Mackenzie. Au début de Petit Samedi, il y avait ces images de fête. Là, on retrouve aussi quelques chansons, quelques moments comme ça, d'échapper à cette âpreté quotidienne. J'imagine que c'est volontaire et ça permet aussi d'équilibrer
oui, tout à fait. Film. Tout à fait. Mais dans le film Mackenzie, c'était vraiment. Je trouvais que cette chanson, il observe un cours de danse et ensuite il va retrouver sa sœur et il la fait danser parce qu'il a vu des adultes danser et ça le fascine. Et ce que j'aimais dans cette musique, c'est qu'il y a quelque chose de très naïf. Et en même temps, quand on voit un peu la solitude et la tristesse de ce petit garçon, ça fend le cœur. Enfin, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de musique, c'est que parfois, ça crée justement un parallèle intéressant. Et pareil, dans Il pleut dans la maison, ouais, y a le moment de l'épicerie, par exemple, où on sent cette vieille dame qui écoute aussi des musiques latines, comme ça. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, j'essaie toujours d'utiliser la musique avec parcimonie.
Je voulais revenir sur cette idée de l'eau, qu'on effectivement, bon, il pleut dans la maison, on en a parlé, mais il y a aussi effectivement le lac qui est très important. Il y a l'idée que Purdé apprend à nager, enfin, elle sait pas nager, mais il y a beaucoup de scènes aussi dans le lac où elle se baigne. Il y a aussi cette idée que le lac attire aussi des jeunes, comme on le voit vers la fin du film, avec ce jeune bourgeois de Bruxelles qui vient et qui apprend à fumer un pétard. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ce territoire géographique et tout ce qu'il propose, notamment toute sa dimension sur l'eau, etc., indique aussi de sociologique.
Oui, tout à fait, tout à fait. L'eau, c'est vraiment mon élément. Et c'est vrai que quand j'ai redécouvert ce tourisme au lac de l'Oder, je pense que même les Belges le connaissent mal, en fait. Mmh. Et je me suis rendu compte que ça créait vraiment des inégalités assez frappantes, parce que c'est un groupe, je ne vais pas les citer, mais c'est un gros groupe hôtelier qui s'est installé là-bas. Et donc, clairement, ça ne rapporte rien, finalement, aux locaux. C'est vraiment un tourisme qui s'est implanté là et donc ça attire toutes sortes de gens et c'est vraiment ce choc des classes qui m'intéressait beaucoup. Et puis surtout, c'est l'eau, il y a quelque chose de toujours un peu dangereux, moi, qui me plaît. Dans Mackenzie, je travaillais justement le suicide, dans la Meuse, il y a énormément de suicides. Et donc moi, ça m'a marqué quand j'étais jeune parce que tous les ans, tous les deux ans, il y avait des histoires de suicider dans la Meuse. C'est pas un cliché, donc c'est quelque chose. On avait toujours cette menace comme ça de la Meuse qui appelle les gens l'hiver. Et là, le lac de l'Oder, ouais, c'est ce qui m'intéresse, c'est que ça réunit finalement des gens précaires qui viennent chercher une envie de vacances, d'une journée pas chère, accessible en train, et qui viennent profiter de ces petits plaisirs-là, qui viennent manger des glaces au bord de l'eau, et en même temps. Les gens ne se mélangent pas tellement, il y a vraiment deux côtés au lac. Il y a les plages assez populaires et puis il y a les petits logements à l'américaine, maisons en bois et les jet skis et les bateaux. Et donc ça m'intéressait beaucoup de travailler ça. Ouais.
Il y a une dimension dont on n'a pas parlé mais qui est très importante, c'est l'idée de. C'est presque mélancolique, c'est l'idée d'un dernier été. C'est l'idée d'une saison charnière, d'un moment, d'un instant T très important dans leur vie, dans la vie de Purdé et Mackenzie, où en fait ils sont. Presque à la croisée des chemins, ils sont vraiment dans leur destinée. Ça, c'est très important aussi dans le film.
Oui, je pense que c'est l'universalité du film aussi. Je pense qu'on a tous connu un peu ces derniers étés de l'adolescence. Alors parfois, quand tout se passe bien, c'est avant de quitter la maison, avant de poursuivre des études ou de trouver du travail. Et puis, dans leur cas, c'est un peu précipité parce qu'ils sont un peu esselés. La sœur a envie de partir, c'est ce qui les divise. Elle a envie de partir, lui a envie de protéger cette maison et d'attendre que leur maman revienne. On sent que chez Mackenzie, il y a encore un espoir que les choses reviennent un peu comme avant. Et c'est vrai que je pense que c'était une des premières choses qui a inspiré le film. C'est un peu de nostalgie de ma part de ces atmosphères, des derniers étés caniculaires de l'enfance, comme ça. C'est terrible d'être déprimé l'été, mais moi, j'avais un peu ça, en fait. C'est pas de la dépression, mais plutôt, cette colère, cette envie d'ailleurs. Et on attend septembre, en fait. On attend le mois de septembre. On sait que c'est là qu'il va falloir prendre des décisions. Arrêter l'école, continuer l'école, partir, rester. Et donc, je suis assez fasciné par ça.
Et en même temps, donc Purdy et Mackenzie sont dans une grande précarité et il y a aussi la peur de faire des mauvais choix. On le voit à travers le personnage de Purdy qui commence à travailler, mais on n'arrête pas de lui dire mais tu vas pas être femme de ménage toute ta vie, tu vas pas faire ça toute ta vie. Mackenzie, on sent que voilà, il peut glisser du mauvais côté, que ça peut, il peut être dans un engrenage tragique. Donc il y a vraiment cette idée là, ce que vous appelez souvent ce plafond de verre, mais qu'on peut appeler aussi déterminisme social, enfin cette hantise là de ça.
Oui, tout à fait. C'est clair qu'ils sont dans une situation où, en fait, ils n'ont pas trop le choix. Et je trouve ça presque un peu condescendant, cette impression qu'on a forcément quand on vient d'une classe supérieure, de se dire « Ah, mais arrêter ses études et aller travailler, c'est forcément un mauvais choix. » Et en même temps, c'est peut-être ce qui peut les sauver. Donc c'est toute la question du film, en fait. Est-ce qu'elle fait un bon ou un mauvais choix ? Je ne sais pas. Et j'aime bien ne pas savoir. Et j'aime bien bousculer un peu ça. Oui, je trouve qu'on met parfois une grande importance à ces choix et en même temps, ce serait tellement plus facile si on pouvait les faire à 30 ans, ces choix-là. Qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie ? C'est très compliqué.
Et ça passe beaucoup par les personnages extérieurs à leur duo, j'allais dire, à Purdy et Mackenzie, et les personnages qu'ils rencontrent sur leur chemin, alors que ce soit Yous, le petit ami de Purdy, que ce soit un agent immobilier à un moment donné où elle va visiter un appartement justement pour s'en sortir, pour échapper à cette maison et pour échapper aussi quelque part à cette vie. Voilà, donc c'est très intéressant la manière dont ces personnages périphériques entrent dans le film et la manière dont on les observe, de ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'on dit d'eux. Enfin, je pense notamment à Yous, qui à un moment donné, enfin, je sais que Mackenzie dit, mais il nous prend de haut.
Ouais.
Il y a vraiment cette idée-là, alors que et lui-même, il est ambigu dans sa relation avec Purdy. Et on a peur, finalement, en tant que spectateur, qu'il il l'abandonne parce qu'elle n'est pas de sa catégorie sociale.
Oui, absolument. C'est vraiment les personnages, en effet, qui gravitent autour d'eux, qui les remettent face à leurs propres conditions, parce que, bon, eux, ma foi, ils prennent un jour à la fois, ils essayent de survivre un petit peu à ce quotidien et en même temps ils vivent leur jeunesse, il y a des moments d'amour, des moments de rigolade, enfin je veux dire, dans le film moi j'avais pas envie de les enfermer dans, je trouve que parfois dans le cinéma social il y a ce côté où vous vivez quelque chose de difficile donc quelque part le rire et la légèreté vous sont interdits et dans le film c'était pas du tout ça, enfin voilà, Purdy en effet elle est amoureuse, elle espère, elle se projette beaucoup avec ce petit copain, elle espère... On sent qu'elle envisage peut-être un jour d'avoir une famille, enfin voilà, avec ses collègues, on sent qu'il y a un dialogue autour de ça et qu'elle s'imagine trouver un peu l'équilibre qu'elle n'a pas forcément eu, c'est-à-dire de pouvoir fonder un foyer stable et son copain la remet face au fait que lui, il n'a pas tellement envie d'avoir une copine qui est femme de ménage. Donc il y a toutes ces questions-là et c'est vrai que je joue beaucoup dans les regards, en fait. Eux posent un regard sur les filles au bord du lac, sur le tourisme, sur ces gens qui se baignent, sur les gens qui ont plus d'argent qu'eux. Et en même temps, eux aussi sont beaucoup jugés. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et voilà, et au-dessus de ça, il y a toujours cette envie d'ailleurs qui plane et cette envie, en effet, de briser ce plafond de verre.
Et puis, sans évidemment divulguer quoi que ce soit, mais il y a cette rencontre avec ce jeune homme... qui veut fumer un pétard au bord de l'eau et il y a tout un échange avec Mackenzie qui est très intéressant parce que il y a une sorte de rivalité aussi sociale dans le sens où Mackenzie va s'inventer aussi une famille pour être au niveau social de ce jeune homme et je dirais pas comment ça se termine mais en tout cas c'est intéressant la façon dont cette scène là et la façon dont elle est prolongée parce que ça dit tout de la manière de cet équilibre que vous avez dans votre film de pas aller trop loin aussi dans le manichéisme et de protéger aussi quelque part vos personnages quoi aussi.
Ouais, tout à fait, mais c'est vrai que le personnage de Mackenzie on sent qu'il est un peu gêné, on sent qu'il a pas l'habitude en fait de côtoyer des gens qui ne sont pas de son milieu et donc il découvre un petit peu un monde et voilà, forcément ça passe par le mensonge parce qu'il est gêné de sa condition et c'est peut-être la première fois que ça lui arrive à ce point-là. Et puis ce jeune homme bourgeois, finalement, lui, il ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui vivent avec moins que lui, en fait. Il ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui sont obligés de travailler l'été, qui sont obligés qui ne peuvent pas profiter comme lui de leur adolescence. On sent qu'il y a quelque chose de très léger chez lui, qui vient passer des vacances avec ses parents et qui n'imagine pas, qui ne connaît pas la pauvreté, en fait, tout simplement.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et vous écoutez toujours Nuit américaine avec Paloma Sarmondaï pour le film Il pleut dans la maison qui sort en salle le 3 avril. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont vous filmez cette histoire avec aussi à l'économie, et je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que je crois que c'était un peu pareil dans, notamment dans Petit Samedi, cette idée de, au départ, de, j'allais dire, de blinder l'histoire avec beaucoup de scènes, beaucoup de choses, et tout le travail, ça, c'est de retrancher en fait. Mmh. Et j'en veux pour preuve, par exemple, pour montrer le départ de la mer, un plan sur la penderie vide suffit quelque part pour montrer qu'elle est partie. Et donc c'est vraiment cette mise en scène à l'économie là que vous adoptez dans le film.
Oui, j'essaie d'avoir. Après, l'économie du film nous y obligeait un petit peu parce que peu de budget, peu de jours de tournage, des acteurs non professionnels. Donc en fait, il faut être très strict, il faut être vraiment être méchant avec soi-même et ne pas trop s'attacher aux choses. Il faut être conscient de ses forces en fait. Et je savais qu'il y avait une grande force dans la relation de Purdey Mackenzie. Je savais qu'avec le chef opérateur, on commençait vraiment à mettre le doigt sur l'esthétique et la chorégraphie du film. Mais c'est vrai que notamment au montage, là, on a vraiment dû resserrer les choses et aller à l'essentiel. Et donc oui, ça implique des choix assez drastiques parce que j'aime travailler des narrations assez minimalistes. Et donc voilà, c'est pas un film qui est verbeux, c'est un film qui joue beaucoup de l'ellipse aussi.
Oui.
Voilà, il y a une construction assez au couteau quoi.
Et comment En fait, il y a l'idée de compenser peut-être le manque d'argent, même si le tournage a été très rapide, par du temps consacré aux acteurs. Et je crois qu'il y a cette méthode de faire des ateliers avec eux, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
En amont du tournage.
En amont du tournage. En fait, il faut savoir que le système de financement de la production légère ne nous oblige pas à avoir un scénario fini et complètement écrit. Donc moi, j'ai toujours travaillé avec un scénario qui était d'environ 60 pages. Ce qui fait que c'était surtout une structure, et puis il y avait des dialogues clés qui étaient développés, mais il y avait plein de dialogues qui n'étaient pas développés. Il y avait des débuts de dialogue, et puis c'était assez résumé en fait dans l'écriture. Mais par contre, c'est vrai que dans ces petits ateliers que je faisais avec eux, on a travaillé énormément d'improvisation. Donc voilà, je leur donnais des petites clés de séquence, je leur demandais d'imaginer la suite, ou voilà, c'était une direction assez fluide. Et donc, au moment du tournage, on avait un an de travail derrière nous. Eux, ils n'avaient aucune expérience avant, à part le petit court-métrage qu'ils avaient fait avec moi quand j'étais à l'école. Ils n'avaient jamais fait de théâtre, jamais fait de cinéma. Donc, c'était vraiment... je les ai vraiment coachés, en fait, pendant une année. Et petit à petit, j'ai vraiment l'impression que le film leur est rentré dans la peau. Et il suffisait que je leur dise, tu sais, c'est la scène qu'on a répétée tel jour, et qu'on a improvisée, qu'on a répétée. Et les choses ressortaient assez spontanément. Je voulais garder une certaine fraîcheur parce que je pense que c'était important, encore une fois, quand on tourne dans des conditions comme ça, de mettre tout de suite le doigt sur les forces et sur les points faibles. Et leurs forces, eux, c'était vraiment dans la relation, dans les dialogues qu'ils avaient entre eux. Et donc, je voulais garder une certaine spontanéité et provoquer les choses, en fait.
Et en leur donnant le texte presque au dernier moment et en travaillant sur l'improvisation, c'est ça aussi ?
Ouais, en fait, ils sont pas bons élèves. Donc, de toute façon, je pense que si j'avais donné un texte 6 mois avant, ils seraient quand même arrivés la veille en me disant qu'ils ne l'avaient pas lu. Donc... ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait 2 semaines avant le tournage une lecture ensemble qui était vraiment plus pour qu'ils soient conscients de la structure du film, parce que jusqu'au bout, ils n'avaient pas bien compris comment allait se construire cette narration. Ils savaient de quoi le film parlait, mais je voulais vraiment leur montrer un petit peu l'ossature et leur expliquer aussi dans quel ordre on allait faire les choses. Au tournage, on a essayé de garder le plus de chronologie possible, justement pour pas qu'ils se perdent là-dedans et pour que les émotions puissent découler plus facilement pour eux. Je crois que c'était compliqué pour eux de comprendre qu'on faisait une scène de la fin au début, et donc on a vraiment, avec l'assistante à la réalisation, on a vraiment essayé de construire un planning qui soit le plus chronologique possible. Et puis, ça partait de... C'était pas... Il y avait vraiment quelques scènes clés avec des informations, typiquement les scènes un peu pivot où je savais qu'il fallait vraiment qu'il y ait des éléments très précis de langage. À ce moment-là, on les répétait un peu. Mais tout le reste, il y a énormément d'improvisation, notamment justement sur ces grandes observations, ces scènes d'observation au bord du lac où ils observent les touristes, où ils parlent des filles, des gens qui nagent, des bateaux. À ce moment-là, c'est vraiment improvisé.
Il y a, alors c'est marrant parce que vous parliez de ça par rapport aux comédiens, enfin de le fait qu'ils soient totalement imprégnés de cette histoire-là, mais c'est vrai que c'est ce qui arrive aussi aux spectateurs qui dans la construction du film, qui avance comme ça par plusieurs scènes, un peu comme une forme de chronique, même s'il y a des fils rouges narratifs, mais il y a quand même beaucoup de scènes qui apparentent le film à une chronique, qui fait que le spectateur est imprégné aussi de leur vie, de leurs gestes, de leur dialogue, de ce qu'ils disent, et de leurs envies, de leurs désirs. Et ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu, à travers les retours des spectateurs, beaucoup de retours de cet ordre-là, qui agissent de manière presque sensitive, sensible sur le spectateur, en fait.
Ouais, il y a toujours une équipe Purdey, une équipe Mackenzie. Je pense qu'il y a des gens qui vont être très marqués par le personnage de Purdey et d'autres par le personnage de Mackenzie. Ça, je pense que ça dépend d'affinité, de comment on a grandi aussi peut-être, à qui on s'identifie le plus. Et c'est vrai que le personnage de Mackenzie, il y a un côté où c'est un peu un enfant dans un corps d'adulte. Souvent, on me demande, tiens, mais il est quand même pas plus âgé que ce que vous dites. Et en fait, non, il est juste bien costaud. Et c'est vrai que c'est un nounours, quoi. Il y a un côté où on sent beaucoup de colère, beaucoup de rage en lui. Et en même temps, on sent le petit garçon très doux qu'il y a au fond de lui. Notamment dans les scènes avec sa sœur où on sent beaucoup de tendresse. Et puis le personnage de Purdey, je trouve que c'est un personnage féminin assez intéressant. On sent vraiment une envie de s'émanciper, une envie de... Enfin, elle est très responsable. Elle endosse à la fois le rôle de la maman, de la copine, de l'employée déjà. Il y a beaucoup de choses pour une jeune fille de 17 ans, en fait. Et puis j'ai essayé de les filmer avec beaucoup d'amour. Je pense que j'ai énormément travaillé, comme on le disait, la sueur de cet été, la peau, tous ces petits tics... Leurs ongles manucurés, leurs ongles rongés, les cigarettes, leurs vêtements aussi, les vêtements de la fast fashion où on reconnaît tout de suite les adolescents qui sont. Et donc j'ai vraiment essayé de vraiment me plonger dans leur univers et d'essayer, encore une fois, des personnages documentaires dans un film de fiction, en fait. Et donc je pense que forcément, il y a quelque chose d'assez empathique.
On a fait l'émission spéciale montage il y a quelques semaines, et c'est vrai qu'on parlait de cet état qu'ont les monteurs, monteuses, cinéastes devant la masse de rush qui arrive, et presque cette sensation, non pas de panique, mais en tout cas de peur que tout ça arrive à prendre forme. À quel moment vous êtes dit, ça y est, j'ai trouvé mon film, j'ai trouvé la forme de mon film, j'ai trouvé ce que je voulais raconter? Est-ce qu'il y a eu un moment clé du montage?
C'est-à-dire que comme c'était une matière qui était à la fois très fictionnelle, mais avec des vrais moments documentaires, j'ai fait le choix de travailler avec un monteur qui était, pour le coup, très fictionnel, très narratif. Parce que je voulais emmener le film dans une vraie structure fictionnelle. Et en fait, avec cette matière-là, on aurait pu partir dans quelque chose de beaucoup plus hybride. Et j'avais quand même envie, justement, de retravailler une narration. Je ne vais pas dire que le film s'est réécrit en montage, parce que, en fait, simplement en suivant... l'ordre du scénario, il y avait déjà un film, mais c'est vrai qu'on a quand même, forcément on a restructuré un peu les choses, et puis il y avait surtout cette grande valise de choses improvisées, d'éléments bonus qu'on a clapés au-delà des chiffres du scénario et qui sont venus s'ajouter à ça, et je crois que ça a été un vrai plaisir de réinjecter dans le film ces petites, ces moments d'aération, ces moments d'introspection, ces moments d'atmosphère, d'été et du lac... Donc je pense que ça a été un plaisir. À quel moment ça a été... je pense que c'est justement au moment où... En fait, dans un film de duo, ce qui est très compliqué, c'est de trouver cet équilibre entre les deux personnages. Et à un moment donné, il y avait trop de Mackenzie ou trop de Purdey. Et en même temps, j'avais envie que Mackenzie, à un moment donné, soit vraiment assez seule. Donc il a fallu faire partir Purdey. Donc à un moment dans le film, on la voit beaucoup moins. Et puis elle réapparaît petit à petit. Mais donc c'était arriver à trouver cet équilibre à la fois... poser cet univers, cette maison, faire comprendre dans quel lieu on est, c'est-à-dire le lac, le tourisme, le rapport qu'ils ont à ce tourisme. Et puis petit à petit, créer ce chemin aussi, ce chemin de Mackenzie, de est-ce qu'il est en train de comprendre que lui aussi devrait partir ou non. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont énormément réfléchies au montage.
Alors on va terminer cette émission, on arrive au bout de cet entretien. Il y a vraiment cette idée maintenant de que vous êtes à la croisée des chemins, et vous comme cinéaste, et aussi vos deux comédiens, Purdey et Mackenzie, parce qu'on peut se demander qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, comment le film les a travaillés, et comment le film vous a travaillé, vous, comme cinéaste. Donc j'avais envie de vous demander un peu comment, comment vont Purdey Mackenzie, dans quoi ils se projettent aujourd'hui, et vous, est-ce que vous voulez continuer à les accompagner ou bien à faire tout à fait autre chose?
Ils vont bien. Mackenzie travaille dans le bâtiment, Purdey là, elle fait des formations plutôt dans l'esthétique. Je crois qu'ils en ont envie, après ils sont jeunes, c'est quand même un monde qui est compliqué. Il faut arriver à se vendre, il faut être un peu auto-entrepreneur de soi-même, donc je pense qu'il leur faudra encore un peu de temps pour comprendre tout ça. Et moi, je pense qu'eux, ils aimeraient beaucoup refaire un jour un film, donc il ne faut jamais dire jamais, peut-être que dans 10, 15 ans, j'aurai envie de retrouver ces deux personnages, je ne sais pas. Je ne sais pas où la vie nous mènera, mais... Non, moi, je continue mon travail de fiction. C'est vrai que jusque-là, j'ai quand même fait des films qui étaient... ici, c'était un film qui était avec un financement assez maigre, qui s'est fait assez vite. Et là, je prends plaisir à vraiment explorer un peu plus l'écriture de fiction et à développer un petit peu plus le scénario, à prendre le temps, en tout cas, de me plonger dans l'écriture.
Merci en tout cas à vous, Paloma Samandaï. Et donc, je rappelle que Il pleut dans la maison sort le 3 avril dans les salles. Et on va se quitter avec quelques mesures de Don Fuego, qui est un artiste belge qu'on entend dans le film avec Plan D.
Trop de gens faux qui font semblant de t'aider. Une fois que ça marche bien, tu les vois sur tes côtés. T'es chopé, décodé, une fois que t'as la cote. D'avant, je sais sur qui compter si je fais un flop. Me parle pas de passé, ne me dis pas que t'étais là. Je connais mieux cette phrase qu'un code sur GTA. D'écouter GT quand j'ai su que t'étais faux. Menu a changé, je te sers un coup de couteau. Pas de survie, si j'ai faim, je vais les manger. Je prends mon équipe dans l'appart, ça va changer. S'il y a traite dans le groupe, on va le choper. On avance sur le chemin qu'on a tracé. Ces nuits, je radie à personne qui m'arrête. Crois pas que ta beauté m'empêchera de faire la route. Ta double face, y'a personne qui l'achète. Va voir au loin, vas-y, va faire un tour.
Casse-toi.
Envoie l'alias, envoie Kishta. Travail money, j'aime ça. Travail souris, m'a dit papa. Donc faut le faire, y'a pas de pause.
Non.
J'arrêterai même pas sous tombe. Arrière couvert à la bombe. Si tu tires, sois sur ton tombe.
Okay.
Enterrement, non, y'a pas de colombe. Viens pas m'aider quand j'serai là-haut. Tu seras en retard pour l'ascension. On avance, on partage la passion. Jusqu'au nom dans la fondation. J'reste bien en détente. Pas pressé la détente. Qu'il joue bien, qu'il me tente. J'resterai pour le descendre.
Bang, bang.
5, 4, 3, 2. Regarde maintenant qui m'entoure. Nouvelle personne dans la tour. Fidèle comme client du four. Belle et qu'il n'y ait personne autour.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.